Merci Fabrice. Bonjour tout le monde. C'est bien de vous dire bonjour tous de loin. On va remettre déjà ce message dans la prière, voilà, pour qu'il nous fortifie. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous avons encore ce privilège aujourd'hui de pouvoir consulter ta parole, de pouvoir entendre, Seigneur, eh bien, ton message, Seigneur. Vraiment que tu puisses parler, car tes serviteurs t'écoutent, tes serviteurs, Seigneur, sont là pour entendre ta volonté. Et Seigneur, nous voulons vraiment t'entendre. Nous voulons que nos cœurs fassent silence devant toi. Nous voulons vraiment des cœurs ouverts, Seigneur, aujourd'hui. Merci en tout cas. Merci parce que c'est toi qui vas nous nourrir. C'est toi, Seigneur, qui va pourvoir aux besoins. Seigneur, tu connais les besoins de chacun dans cette salle. Et donne-nous, Seigneur, de l'espérance. Donne-nous encore de fortifier notre foi aujourd'hui, afin que nous puissions, Seigneur, en tout temps, être agréable, Seigneur, et être, Seigneur, de ceux qui font ta volonté pour demeurer éternellement, Seigneur. Sanctifie cette prière. Amen.
Amen.
Donc, on est toujours dans notre épître de 1 Corinthiens. Et le sujet est toujours le même. Il y a quand même un problème à Corinthe qui est visible, c'est qu'il y a du désordre. Et Paul, pourquoi il s'adresse à eux ? Eh bien, pour remettre de l'ordre. Et le désordre de Corinthe fait que l'église de Dieu à Corinthe ne remplit plus son rôle. Quel est le rôle d'une église si ce n'est pas de témoigner de Dieu ? Le problème, c'est que quand on demandait aux gens comment ça se passe à Corinthe, ben, ce n'était pas « gloire à Dieu ». C'était « il y a des rivalités au milieu d'eux ». Et un verset dit même « on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, une débauche telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens ». Donc c'est un avis général. Si vous disiez « comment ça se passe à Corinthe ?» Généralement, qu'est-ce que les gens disaient ?« Ah, il y a de la débauche ». C'est général, c'est ce qu'on entend dire généralement. Ce n'est pas un cas isolé. C'est le cas général de toute l'Église. Et donc, Paul ne pouvait pas se dire « Oh, j'en peux plus d'eux, qui se débrouillent ?» En tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Dieu, il vient eh bien, pour amener une solution. Et la solution, c'est de remettre quelque chose qui a dû disparaître. Ça a forcément dû disparaître parce que vous savez bien que c'est Paul qui a fondé et il leur a dit quoi ? Vous avez été remplis de la connaissance, de la parole. Le témoignage de Christ a solidement été établi. Vous avez été comblés de tous les dons. Mais forcément, il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour ça que Paul est venu. Quand c'est parvenu à son oreille, il entend que l'église de Corinthe part dans la mauvaise direction. L'église de Corinthe part à la dérive. Malgré le fait qu'ils aient tout ce qu'il faut, ils ont pris la direction qui est totalement contraire à celle sur laquelle ils ont été lancés. Au lieu de devenir meilleurs, ils sont devenus pires. C'est ce que Paul dit. Vous vous assemblez pour, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir quoi ? Pires. Et ça me laisse quand même une question pour nous. Qu'est-ce qu'on attend de nos vies ou de l'Église lorsque nous nous assemblons ? Est-ce que nous attendons un rassemblement ? C'est bien, on a vécu un bon moment ensemble et au revoir. Ou on s'attend chaque fois à ce que l'on devienne quoi ? Meilleur. Le problème des Corinthiens, c'est qu'ils ont oublié la raison pour laquelle on s'assemblait. Pour devenir meilleur. Donc, à force de penser à autre chose, ils sont devenus quoi ? Pire. Et devenir meilleur, pour nous, c'est quoi ? Devenir un meilleur prédicateur, devenir un meilleur pianiste, devenir un meilleur, je ne sais pas quoi, dessinateur, devenir... C'est quoi devenir meilleur ? Ah, rappelez-vous l'appel, hein, le premier verset, hein, le deuxième, il dit « À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. » La vocation, c'est d'être quoi ? Saint. Et devenir meilleur, ça veut dire quoi ? Grandir dans quoi ? Dans la sainteté. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc c'est aussi destiné à tous ceux qui invoquent le Seigneur. Est-ce qu'on se sent compris? Donc ça s'adresse aussi à nous. Donc nous avons une vocation de devenir meilleurs, nous améliorer dans notre vie de sainteté. Et ça passe par quoi? Invoquer le nom du Seigneur Jésus. Alors quand on demande ce que les Corinthiens ont sûrement mis de côté, c'est sûrement celui qui sanctifie. Être sanctifié passe par invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Mais une église qui part à la dérive aura mis de côté celui qui est le garant de sa sanctification, Jésus-Christ. Une église à la dérive est pleine de personnes qui vont dans le mauvais sens et oublient l'essentiel, le centre de la vie d'église. Pourquoi est-ce que nous nous assemblons? Eh bien, pour avoir au milieu de nous une seule pensée, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Lui qui est mort pour nos péchés. Mais pour les Corinthiens, eux n'avaient pas honte de vivre dans le péché. Lui qui a cherché l'intérêt de tous. Mais pour les Corinthiens, chacun pour soi, chacun pour son intérêt. Lui qui s'est dépouillé pour nous, alors que les Corinthiens dépouillaient les autres. Lui qui a perdu ses droits pour nous sauver, alors qu'eux sont prêts à perdre les autres pour leurs propres droits. Lui qui a vaincu la mort pour nous donner une espérance, alors qu'eux renient l'espérance et amènent les gens à la mort. L'évangile ayant été modifié, il n'y a plus de résurrection. Alors il faut prendre la bonne direction, que ceux qui se sont égarés reviennent et vivent la grâce de Dieu, témoignage de Dieu, qui ne passe que par Jésus-Christ. Aujourd'hui, la question que l'on doit prendre déjà dans notre vie personnelle, c'est est-ce que c'est la direction que je prends? Et de se poser, est-ce que c'est la direction que prend notre Église? Le témoignage de Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ crucifié. Comprenons-nous réellement que sans Christ, sans son œuvre, sans son esprit, sans sa parole, sans son amour, nous partirons forcément à la dérive. Nous nous éloignerons forcément de la vocation, de la sainteté qui est promise. Et dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, oui, ça parle du retour du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que nous nous assemblons et pourquoi nous attendons son retour? Nous avons besoin de le connaître, de le savoir pour revenir ou pour rester dans la bonne direction. Je vous invite à prendre, donc dans 1 Corinthiens 15, des versets 50 jusqu'au verset 58. Et nous allons lire tout ce passage. Qui conclut non seulement ce chapitre, mais qui est aussi une espèce de résumé de ce que Paul voulait entendre d'eux, voir d'eux, selon ce que Dieu a mis dans son cœur. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Si on s'arrête juste déjà sur ce dernier verset, il y a bien une notion de devenir meilleur. Travaillant de mieux en mieux. Devenant ou soyant fermes et inébranlables. Il faut travailler mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Car dans la sanctification, il y a toujours une notion d'amélioration continue. Aujourd'hui, il doit toujours être mieux qu'avant. Hein, vous connaissez ces versets qui disent « autrefois ». Il y en a plein, hein ? Autrefois quoi ? Autrefois ennemi. Donc ce n'est plus le cas aujourd'hui. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, dans Galates. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Autrefois, païen dans la chair. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, si vous avez cru en Christ. Et ce verset tout entier, Éphésiens 2:3, qui nous dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais c'était autrefois. Et avec le Seigneur, il y a toujours un avant, un autrefois et un maintenant. Et si vous regardez en arrière, j'espère que vous pouvez tous dire, tout ça c'était autrefois. Il y a un passé que j'ai laissé derrière moi. Comme on dit, le pire est derrière. J'espère que tous vous pouvez dire, le pire est derrière. Ma condamnation, elle est derrière. Mais maintenant, je suis sauvé. Maintenant, j'ai l'assurance que le Seigneur travaille dans ma vie. Et je vois toutes ces choses que j'ai laissées. Avant, j'étais païen. Aucune confiance en Dieu. Maintenant, toute ma vie, je la remets en Dieu. Avant, je marchais selon les volontés de la chair, selon ma pensée. Maintenant, je marche selon la volonté de Dieu, selon le pensée de Dieu. Autrefois et maintenant. Mais il y a une amélioration toujours. Il y a aussi un maintenant et un après. Et c'est ce que nous voyons, il y a un maintenant. Maintenant, merci Seigneur, je suis sauvé. Et je grandis dans ma sanctification. Mais après, je serai parfait. Mais est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment un après ? Parce que le problème des Corinthiens, c'est qu'ils avaient du mal à croire en cet après. Ils se sont dit, maintenant, c'est déjà très bien. Et nous, nous croyons qu'il y a un maintenant, un après, un aujourd'hui et un dans l'éternité. Et c'est ce qu'on appelle l'espérance. Nous croyons en une chose certaine qui nous est promise, qui s'appelle le royaume de Dieu. Et notre lendemain est assuré. C'est une amélioration éternelle qui nous attend au retour du Seigneur. Et ce retour change tout, améliore tout, en commençant par nous-mêmes. Verset 51, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est un mystère. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir et que dans l'Ancien Testament, même si on en voit un peu parler à la résurrection, on ne pouvait pas savoir exactement c'était quoi le concept. Mais ici, il nous le dit clairement. Voici, je vous dis un mystère. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a révélé et vous ne pouvez pas le savoir si ce n'est pas Dieu qui le dit. Il dit, nous ne mourrons, pas tous, mais qu'est-ce qui va arriver à tous ceux qui ont cru en Christ ? Nous serons tous changés. Il n'y aura pas d'exception. Tous seront changés. Les morts, quand le Seigneur reviendra, mais aussi qui ? Les vivants. C'est une obligation. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est le verset précédent. Moi, je lis dans, en sens inverse, mais c'est le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Nous sommes faits de quoi ? De chair et de sang. Et ce qui est clair, c'est que la chair et le sang, qu'est-ce qu'ils n'héritent pas ? Donc, la chair actuelle, telle qu'elle est, elle n'aura jamais pour héritage le royaume de Dieu. Et c'est une chose que l'on doit comprendre, parce que souvent, nous imaginons tel que nous sommes là, et hop, on va au ciel. C'est souvent notre imagination. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Et il explique pourquoi. C'est la problématique. Et il explique pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chair et ce sang ? La corruption n'hérite pas de quoi ? L'incorruptibilité. Et souvent, dans notre imagination, on pense être tel que l'on est, dans le ciel, avec nos désirs, notre manière de penser d'aujourd'hui, avec nos combats d'aujourd'hui, là-haut. Mais là-haut, il n'y aura pas ça. Hein. Il n'y aura pas ce que vous désirez qui est si dur à combattre parfois. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Ça sera l'incorruptibilité. Et dans l'incorruptibilité, vous ne pouvez pas mettre la corruption. C'est le principe de l'incorruptibilité. C'est le principe, hein. Quelque chose qui est corruptible, c'est quelque chose qui va dans la décadence, dans la dépravation, dans la destruction, qui périt, qui va être ruiné, qui va être anéanti. Alors que l'incorruptibilité, c'est quelque chose qui est inaltérable, immortel. Donc ce n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas faire passer la corruption dans l'incorruptibilité. Et nous, les hommes, nous sommes tous quoi ? De chair et de sang, donc, corruptibles et je dirais même corrompus. Notre corps se dirige vers où ? L'immortalité ? Ça sécherait depuis longtemps, hein. Les gens aimeraient bien trouver la solution pour l'immortalité. Mais il faut dire une chose, hein. Plus le temps avance, et même pas besoin qu'il avance, hein. Soyez simple aujourd'hui, dès qu'un virus débarque, le corps il n'a pas un... Hop, moi je... Antivirus. Non, tout de suite, qu'est-ce qu'il va prendre ? Le virus. Parce qu'il est quoi ? Corruptible. Et il va faire quoi ? Se dégrader. C'est notre corps. Et c'est un fait. Il se dégrade et il ne peut pas être tel qu'il est, en tout cas, incorruptible. Nous avons été infectés par le péché, donc la fin de ce corps, c'est la mort. Et ce corps est en train de périr, et le temps a passé, les générations ont passé, et tout le monde meurt. La chair et le sang sont destinés à la corruption, à la mort. Et quand quelqu'un meurt, le corps, il est comment ? Il se décompose. Il ne devient pas de mieux en mieux. Il n'y a pas de remède à cela. Ce qui est terrestre, de chair et de sang, retourne à la terre. Si donc nous plaçons notre confiance dans ce corps, nous plaçons notre confiance dans quelque chose qui va aller où ? À la mort. Mais souvent, nous essayons de placer notre foi dans la chair et le sang. Je suis capable avec ma chair et mon sang. Moi, je dis, vous êtes capable de quoi ? Mourir. C'est déjà prouvé. Quand le péché vient, ne comptez pas sur votre chair et votre sang pour vous en dégager et hériter le royaume de Dieu. C'est ce qu'il nous dit. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est une problématique. Et notre espérance de rentrer dans le royaume de Dieu, ça ne sera pas de rentrer avec ce corps. Il faut être de nature inaltérable, incorruptible, immortel. Qui est de nature immortelle ? Si quelqu'un l'est, levez la main. Oh, vous pouvez, hein. Dans les séries, j'ai vu ça, mais ça reste des séries, ça reste de la fiction. Dans la réalité, nous sommes incorruptibles. Nous sommes corruptibles, pardon, et décadents. Ça veut dire que notre salut, parce que la promesse de Dieu, c'est quand même la vie éternelle, il n'est pas finalisé aujourd'hui. Nous sommes sauvés en espérance, comme dira Romain. Mais il y a donc une espérance pour ce salut qui est dans ce corps. Et quelle est cette espérance ? Pourquoi est-ce que nous attendons le retour du Seigneur ? Nous l'avons vu, hein. Qu'est-ce qui va se passer à son retour ? Tous seront changés. Pourquoi nous espérons tant le retour du Seigneur ? On veut que ça soit changé. Parce que ce corps nous conduit toujours vers le péché. Et parfois, nous recherchons dans notre vie une vie sans le Seigneur. Une vie où on veut être la meilleure version de nous-mêmes, ici. Vous connaissez ces pubs, soyez la meilleure version de vous-même. Et là, un coach là, qui va vous dire, voilà comment est-ce que tu dois faire, et tu seras la meilleure version de toi-même. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même sans passer par Jésus-Christ. La meilleure version de l'homme, c'est qui ? C'est Jésus-Christ. Donc il faut être à la ressemblance de qui ? De Jésus-Christ. Il faut revêtir la vie de Jésus-Christ. Vous ne serez pas la meilleure version de vous-même ici, je vous le garantis à 100%. Et si vous en doutez, demandez à ceux qui vous connaissent le mieux. Ils sauront vous le dire. Et vous savez, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il nous a montré que, dans un corps d'homme, il a été la meilleure version de l'homme. Il a été quand même dans un corps qui est un corps fait de quoi ? De chair et de sang. Vous vous posez la question, pourquoi il est venu en tant qu'homme ? Il aurait pu venir en esprit, mais il est venu et il est né de chair et de sang. Donc dans un corps qui est comment alors? Qui est corruptible. Un esprit incorruptible avec une âme incorruptible dans un corps corruptible. Et est-ce qu'il a été corrompu? Non. Mais il a fallu qu'il vienne pour offrir ce sacrifice, un corps de chair et de sang, pour un sacrifice pour ceux qui sont faits de chair et de sang. Et un corps incorruptible, non, corruptible. Vous connaissez ce verset, hein? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et souvent, nous avons cette image parce que nous avons peur de dire « Mais est-ce que Jésus-Christ a vraiment été tenté ?» Parce que Dieu ne peut pas être tenté. Ah oui, Dieu ne peut pas être tenté. Mais ça prouve que Jésus-Christ était un quoi? Un homme. Mais il était Dieu. Parce qu'il n'a jamais quoi? Péché. Mais il est un homme parce qu'il a été tenté. Et vous lisez quand même la Bible, c'est bien écrit qu'il a été tenté dès le moment où il a eu son baptême, il a été quoi? Tenté. Et puis, il a été tenté jusqu'à même à la croix, on l'a tenté de quoi? De descendre. Mais est-ce qu'une seule fois, il a cédé à la tentation? Jamais. Et nous, ça se passe comment? Dès la première fois, on a été tenté, dès qu'on est petit, j'ai pas le droit de faire ceci, personne ne me regarde. Interdit de manger ce bonbon si personne ne regarde. Dès qu'on est enfant, déjà là, on commence déjà à faire ce qui n'est pas bon. La chair, il a dit, je le veux. Et on le fait. Mais notre souverain sacrificateur, il n'a pas commis de péché, mais il a dit, il peut compatir à nos quoi? Nos faiblesses. C'est-à-dire qu'il sait exactement quel est le problème. Nous sommes quoi? Faibles. 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 Et vous vous rendez compte que s'il a compati à nos faiblesses, ça veut dire que lui-même s'est senti comment? Dans ce corps? Faible. Et parfois, on n'a pas cette conscience de l'amour de Dieu qui est venu dans un corps quoi? Faible. Et qui a accepté de vivre quoi? La faiblesse. Alors qu'il est tout quoi? Tout puissant. Et ça, c'est l'amour de notre Dieu. Et nous, parfois, nous oublions qu'il a vraiment donné sa vie pour la baisser au plus bas niveau, c'est-à-dire celle d'une créature, pour nous sauver, nous. Pour nous montrer cette vie qui est la vie qu'il veut nous donner, non seulement, mais en plus, pour s'offrir en sacrifice, pour nous sortir de nos péchés. Christ a été faible à cause de son corps. Il a été meurtri, couvert de blessures, avant de mourir. S'il était que esprit, il n'aurait pas pu être blessé. Mais il a vécu la faiblesse, les blessures. Mais après sa mort, il est revenu dans un corps. Comment? Est-ce qu'il est tombé dans la corruption à sa mort? Il est venu directement dans un corps comment? Glorieux. Mais on se dit, mais il est venu sur la terre avec ce corps d'homme pour vivre sur la terre. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que pour repartir dans le ciel, il était dans un corps comment? Toujours de chair et de sang? Un corps glorieux. Et nous, nous nous posons la question, on commence à rentrer avec la chair et le sang là-haut, mais même le Seigneur, il est rentré comment? Dans un corps comment? Glorieux. Et c'était prémisse, c'est-à-dire que lui-même, il est monté de manière glorieuse, avec un corps glorieux, sinon on ne monte pas avec notre corps. Et donc nous ne passerons pas non plus. Nous avons besoin d'un corps qui soit quoi aussi? Ressuscité. Et un corps immortel, incorruptible. Tous nous serons quoi? Changés. Que vous soyez mort ou vivant à cette période-là, tous nous serons pour que le corps rentre. Sinon, ça sera incomplet. Il y aura l'esprit, l'âme. Et pourquoi on doit ressusciter? Il faut aussi qu'il y ait quoi? Le corps. C'est ce qui fait un homme. Un homme. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, dans le ciel, il est esprit, âme et quoi? Corps. Et c'est notre futur à nous. Nous ne rentrerons pas au ciel tel que nous sommes. Certains pensent que rien ne va changer. On aura les mêmes habitudes, les mêmes besoins, comme on l'a dit, les mêmes désirs, mêmes tentations. Mais la Bible dit tous seront changés. Et ce changement de nature Ma question est, est-ce que c'est votre espérance? Est-ce que vous espérez réellement ce changement de nature? Vous dites, moi je suis bien comme je suis quand même. Je resterai bien comme ça. Je ne vois pas pourquoi je changerai. Tous ceux qui espèrent dans le royaume de Dieu se doivent d'espérer ce changement de corps. Un corps ressuscité. Verset 51, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Et le verset 52 nous dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés. Voilà le déroulement de l'événement final que nous attendons. Et changer ici, le terme, c'est le même que transformer. Pas remplacer. Transformer. Changer. C'est-à-dire qu'on prend une nature qui est mortelle pour en faire une nature comment ? Incorruptible. Les morts. Qu'est-ce qui est la pire condition pour le corps humain ? C'est la mort. On est bien d'accord. La mort, c'est l'état de destruction totale. Il n'y a plus rien à en tirer. Et pourtant, il dit que les morts, qu'est-ce qui vont leur arriver ? Ils ressusciteront comment ? Incorruptible. Voilà le déroulement de ce qu'on appelle la résurrection. Ce qui est mort, va devenir quoi maintenant ? Incorruptible. C'est ça la résurrection. Ce n'est pas, hop, je vais faire un remplacement. Il prend ce qui est mort et il en fait quoi ? Quelque chose qui est incorruptible. Mais ce n'est pas ce que Dieu a déjà fait avec nous. Depuis, il a pris des morts spirituellement pour en faire des personnes vivantes spirituellement. Et pour nous rendre quoi ? Fermes et inébranlables. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Mais là, il va prendre le corps à la fin et il va en faire quelque chose de inébranlable, de inaltérable, d'incorruptible. Et c'est notre espérance. Et notez que cet événement sera marqué d'un autre événement. La trompette sonnera. Ça fait un peu comme un réveil. C'est votre comment réveil le matin, vous savez. Et parfois, le réveil le matin, on ne le supporte pas. Ah non, j'étais bien en train de dormir. Là, le réveil va me faire passer. Alors, je fais encore une journée qui est comme ceci, comme cela. On n'a pas envie de se lever parce qu'on pense que notre journée, elle est pire que notre quoi ? Que notre sommeil, que notre rêve. Je faisais un beau rêve. Et quand la trompette sonnera, la question c'est, dans quel esprit on va être quand la trompette va sonner ? Oh non, mais j'étais encore en train de faire quelque chose là. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu sonnes la trompette maintenant ? Où est-ce qu'on va être là ? Ça va sonner ? Quelle bonne journée. Et c'est un petit peu ça dans l'attente, la trompette sonnera et nous serons là, on va enfin quoi ? Être changé. Et on dit, la trompette sonnera, mais non, j'ai pas fini, j'avais quelque chose à faire, et puis machin, et puis truc, et puis plein de choses encore qui sont dans nos pensées. Mais dans le sommeil, vous savez, vous attendez pas à la sonnerie du réveil. Hein. Même si vous l'avez réglé à l'heure que vous vouliez, quand vous dormez, boum, il sonne toujours trop tôt. Toujours trop tôt. Et quand le Seigneur va arriver, vous vous direz peut-être, oh non, c'est trop tôt. Ou vous espérez vraiment ce réveil. Parfois, quand vous avez un peu comme les enfants, quand vous leur dites le demain on va à Walt Disney. Avant même le réveil, ils sont déjà quoi ? On est prêt ? On y va ? Mais pourquoi ? Ils attendent un événement qui est un événement qu'ils espèrent vraiment. Ils le veulent, cet événement. Mais nous, dans quel état est-ce que l'on est ? Est-ce que nous sommes prêts ? Ou nous serons de ceux qui seront, oh non, pas déjà. Mais la tempête sonnera. Et ça ne sera plus, comme Fabrice a dit tout à l'heure, le moment de se poser la question, mince, il faut que je me prépare. Ah non, il faudra être prêt. Parce que ça se passe en combien de temps ? En un instant, en un clin d'œil, un battement de cils. C'est très rapide. Il n'y aura pas le temps de se dire, ah, il faut que je... C'est fini. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus-Christ, si vous ne croyez pas que vous allez avoir cette espérance de résurrection, c'est trop tard. Soit vous partirez changé, soit vous resterez le même. Mais rester le même, ça signifie que vous allez vivre selon ce corps qui va aller jusqu'où ? La mort. la mort éternelle. Il n'y aura plus de solution. Ça sera trop tard. C'est pour ça que nous vous annonçons cette espérance aujourd'hui, et c'est pour ça que Paul l'annonce aux Corinthiens. Attention, si vous pensez qu'il n'y a pas de résurrection, quand ça va arriver, pour ceux qui n'y ont pas cru, ça sera trop tard. Trop tard. Attendons-nous à la sonnerie de la trompette. Comment réagirons-nous quand la trompette sonnera? Que ferons-nous? Serons-nous prêts à partir? Ou penserons-nous que ces jours-là que nous regretterons notre vie terrestre? Peut-être penserons-nous faire le choix quand ce jour viendra, trop tard, ça viendra en un clin d'œil. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut croire que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Si vous le croyez aujourd'hui, attendez-vous donc à cette résurrection comme la résurrection de Christ, à une vie, à un corps qui n'est plus de chair et de sang, mais dans un corps glorieux, un corps céleste. Êtes-vous de ceux qui seront songés au retour de Christ? Ce message s'adresse à ceux qui sont de l'église de Corinthe, qui ne croyaient pas à la résurrection, ceux qui n'espéraient pas ce changement, ceux qui pensaient que l'on pouvait servir parfaitement Dieu dans la chair et le sang, ceux qui se contentaient de leur vie d'aujourd'hui. Mais dans son amour, Paul, voyant leur absence d'espérance, va les enseigner sur le besoin de ne pas se contenter de cette vie dans cette chair et dans ce sang, mais d'aimer plutôt la vie promise qui est à venir, de tendre vers cette vie céleste de tout notre être. Et on peut lire le verset 53-54. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Quelle était l'espérance qui était déjà écrite? La mort a été engloutie dans la victoire. Qui veut mourir? Posez la question aux gens, qui d'entre vous veut mourir? Et qui veut vivre? Et tout le monde va dire, moi j'aimerais bien, si on trouve une solution de ne pas mourir, je prends. Mais quand on leur donne la solution, que la mort est engloutie dans quoi? Dans la victoire, mais dans la victoire de Christ. Oh non, là, non, non, non. Et ils préfèrent continuer où? Dans la mort. Pourtant, la solution est déjà donnée. Vous voulez vivre éternellement, il faut revêtir l'immortalité. Si vous voulez ne plus être corruptible, il faut revêtir l'incorruptibilité. Mais ça ne vient pas de nous. Ça veut dire qu'on doit le prendre d'ailleurs. Et revêtir ici, ça donne la notion que comme si vous portez quoi? Un vêtement, un manteau. Donc Dieu nous a donné un manteau pour nous couvrir. Pourquoi? Pour revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Et ce changement, c'est une transformation. Il n'y a pas de remplacement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'on va revêtir et qui va changer toute notre nature. Quelque chose qui est au-dessus de notre capacité à mourir et qui s'appelle la vie. L'incorruptibilité, l'immortalité. Et ça, c'est la caractéristique de qui? L'incorruptibilité et l'immortalité. De Jésus, mais on dira même de Dieu. Qui est incorruptible? Dieu. Qui est immortel? Dieu. Et donc, on va pouvoir revêtir qui? Dieu. On va revêtir la nature de Dieu même, et c'est ce qu'il va nous donner pour qu'on puisse vivre avec lui. Et il nous le donne en qui? En Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Il y a un homme qui maintenant vit dans l'éternité. La parole incarnée. Mais incarnée dans quoi? Dans la chair et le sang, mais qui est devenu un corps glorieux. Et l'amélioration première qui est demandée, c'est de répondre à la chair et le sang qui ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et donc d'engloutir cette mort qui vient de la chair et le sang pour revêtir l'incorruptibilité. L'incorruptibilité et l'immortalité ont la capacité d'engloutir quoi ? La mort. C'est pour ça qu'on a besoin de venir à Dieu et que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes et que nous avons besoin d'aller de progression aussi sur cette terre de mieux en mieux. Si nous avons l'espérance finale, qui est d'être donc sans péché, il y a aussi notre vie actuelle. Si ce que nous désirons, c'est vraiment ce changement, est-ce que vous pensez que l'on se laissera vivre dans la décadence ou on ira vers notre espérance ? Si votre espérance, c'est d'aller passer vos vacances aux États-Unis, est-ce que vous prendrez la direction de la Russie ? Vous allez prendre un vol pour où ? Pour les États-Unis, point barre. Vous n'allez pas dire, je vais aller aux États-Unis, mais je vais prendre un vol par la Russie, et puis par les Seychelles, et puis par l'Australie, et puis par... Vous allez en direction de là où vous devez arriver au final. Et on doit arriver où au final ? À la perfection. Donc nous marcherons sur le chemin qui nous amène à notre vocation, à la sainteté. Mais si vous ne voulez pas vraiment aller aux États-Unis, vous allez traîner sur la route. Bon, si on allait d'abord faire un tour ici, et puis un tour là-bas, et puis un tour à gauche, à droite. Et c'est comme ça, on va se balader, et peut-être qu'un jour, je mettrai les pieds là-bas. Mais nous avons ce besoin d'avancer de mieux en mieux, travailler de mieux en mieux, de grandir dans notre sainteté. Nous devons, dans la chair et le sang, attendre le retour de Christ. Hâter son retour. Hâter, ça ne veut pas dire... pour que tu reviennes et on va attendre. Hâter, ça veut dire déjà commencer à vivre cette vie avec ce que Dieu nous a donné dans la chair et le sang. Et vous savez que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a laissé un gage de son héritage. L'héritage, il sera où ? Mais il nous a laissé un gage ici pour que nous commencions déjà à vivre le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Il nous a donné quoi ? La présence de Dieu, on la vivra là-haut. Pourtant, est-ce qu'il nous a donné sa présence ici ? Oui. Pour que vous commenciez à quoi ? Vivre spirituellement, même dans ce corps de chair et de sang. C'est ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Vous connaissez ce verset ? Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. On peut lire 2 Corinthiens 1, on peut lire le verset 22. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Est-ce que vous savez c'est quoi des arts ? Pourquoi est-ce que vous payez des arts ? C'est quoi une art ?
On réserve un séjour.
Quand on réserve un séjour, hein ? Vous réservez un séjour, vous payez des arts. Pourquoi est-ce qu'on on paye des arts ? Pour être sûr d'avoir la place. Et Dieu nous a donné les arts de l'esprit pour nous assurer que nous avons quoi ? La place. C'est assuré, hein ? Vous avez la place. Et c'est un gage, c'est-à-dire que c'est une monnaie en gage d'un futur paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui n'est pas la finalité. La finalité, c'est dans le futur. Mais il y a déjà les arts de l'esprit, de sorte que vous puissiez vivre quoi ? Une vie déjà dans l'esprit. Et c'est ce que nous faisons. Si du moins... que nous dit la Bible, nous marchons selon l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même toujours ce choix. Soit de marcher selon l'esprit, soit de marcher selon... ce qu'il n'y aura plus au ciel. Hein. Nous marcherons toujours par l'esprit. Mais aujourd'hui, nous disons, et nous avons cet encouragement, marcher par l'esprit. N'accomplissez pas les désirs de la chair. Et c'est notre combat de tous les jours, dans la chair et le sang. De sorte que la chair et le sang... ne soit plus notre maître. C'était autrefois. Mais maintenant, nous avons l'esprit qui nous permet de choisir de marcher selon l'esprit. Et c'est déjà une énorme amélioration. Parce qu'auparavant, on ne pouvait pas du tout accomplir ce que Dieu nous demandait. Maintenant, avec les arts de l'esprit, nous pouvons choisir de marcher selon l'esprit. Et ce qu'il nous dit dans ce message, ce qu'il annonce aux Corinthiens, c'est « Choisissez maintenant de marcher selon l'esprit. » Arrêtez de marcher selon la chair. C'est ce qu'il répète. Arrêtez la débauche. Vivez dans la sainteté. Arrêtez le désordre. Vivez dans la paix. Arrêtez l'égoïsme. Vivez dans l'amour. C'est ce qu'il enseigne depuis. Vivre selon l'esprit. C'est un privilège que nous avons de pouvoir vivre selon l'esprit. Il a même été rapporté. Nous sommes le temple de Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, le royaume de Dieu, il l'a fait vivre en nous, dans ce corps de chair et de sang. Avant, il n'y avait qu'une volonté, la chair et nos pensées. Mais nous avons été justifiés de nos péchés par la foi en Jésus-Christ et nous avons été purifiés, lavés dans notre cœur, dans notre conscience. Et nous allons de mieux en mieux. En tout cas, j'espère. C'est un peu, vous savez, comme quelqu'un qui est malade. Moi, j'espère qu'à chaque fois que je vais demander la question à Véronique, elle va me dire quoi ? Ça va, Véronique ? Elle va me répondre quoi ? De mieux en mieux. De mieux en mieux parce que maintenant, mon bras, j'arrive à le bouger. Maintenant, j'arrive même à la fin, le but, c'est qu'elle puisse reprendre son métier et transporter des malades même. Mais en attendant, elle va aller de mieux en mieux. Mais elle va de mieux en mieux, pourquoi ? Parce que c'est naturel. Après l'accident, on va attendre et puis ça va s'améliorer tout seul. Il faut qu'elle se quoi ? Qu'elle se soigne, non ? Et nous, nous pensons pouvoir aller de mieux en mieux sans nous soigner, sans passer par la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est là pour nous amener à être de quoi ? De mieux en mieux, à grandir dans notre sainteté. Et c'est pour ça que nous avons aussi les arts de l'esprit. C'est l'esprit qui va agir pour que nous allons de mieux en mieux. Pour que nous puissions dire, lorsque nous avançons, verset, on revient à 1 Corinthiens 15, verset 55. Rappelez-vous le but, hein, le but c'est que la mort soit engloutie dans la victoire. Et à la finalité, nous devrions pouvoir dire, ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Parce que c'est quoi l'aiguillon de la mort ? Verset suivant, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc qu'est-ce qui se retire de notre vie ? Ce qui nous détruit. Et qu'est-ce qui nous détruit ? Le péché. Et quand le péché s'éloigne, la sainteté grandit. Ou plutôt le contraire. Quand la sainteté grandit, le péché s'éloigne. C'est pour ça que nous amenons la parole pour que tous s'éloignent du péché, pour que tous grandissent dans la sainteté, que tous puissent dire chaque année, comment ça va ? Et tout le monde répondra quoi ? De mieux en mieux. Le problème, c'est que quand on regarde et qu'on voit les gens devenir comme les Corinthiens, de pire en pire. Il dit quoi ? Qu'il y a une débauche telle qu'il n'y en a pas chez qui ? Donc pire même qu'autrefois. Et pour quelle raison ? Ils ont mis de côté cette espérance. Ils ont mis de côté cette vie à laquelle ils sont destinés, la sainteté et la victoire absente, puisqu'ils ne s'éloignent pas de quoi ? Du péché. Et la puissance du péché, c'est... Il y avait beaucoup de lois. Ça marchait très bien sur nous. Beaucoup de... Ils respectaient peut-être beaucoup de choses. Mais il leur manquait, eh bien, la victoire. Et la victoire, elle ne se passe qu'en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Et ce n'est pas par la loi, c'est par la quoi ? Par la grâce de Dieu. Comptant toujours sur l'œuvre de Dieu dans notre vie. La loi, elle n'a qu'une utilité. Et elle est très bien. Mais elle n'est pas pour le salut. Elle pour nous dire quoi ? Vous êtes des pécheurs. Et vous êtes donc quoi ? Condamnés. Mais la grâce de Dieu, elle dit, vous êtes condamnés et moi je viens vous sauver. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous amenons toujours et que Paul leur dit, je n'ai pas d'autre pensée au milieu de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi ? Parce que c'est le prix de notre salut, notre délivrance. Et c'est notre message. Croyez en Christ afin d'être sauvés. La loi n'est pas un repère. C'est Jésus-Christ notre repère. Si vous cherchez un moyen de vaincre la mort et que vous ne l'avez toujours pas trouvé, ne cherchez plus. C'est donné par Dieu. Et ça se passe uniquement par Jésus-Christ, debout, tambour. Et je fais exprès de dire debout, tambour. Parce que parfois, on pense que ça commence au tout début, et après, je me débrouille. Il faut comprendre quand même qu'on vient de loin. Un esprit mort dans une âme corrompue et un corps corrompu. Médecine spirituelle qualifierait de mort totale. Irrécupérable. Cas perdu. Débranchez-le. Fini. On ne peut rien faire. Il n'y a rien à en tirer. Ce sont des enfants destinés à la colère. C'est le résultat, à la fin, ça sera la colère. Fini. Et si on demandait le cas des Corinthiens, s'il n'y avait pas la grâce, j'aurais bien tout donné. Hein. C'est mort. C'est cuit. Mais nous sommes partis de loin. Et il a fallu, pour nous sauver, l'intervention quand même d'un spécialiste. Quand on est mort, il fallait un spécialiste en médecine qui est spécialiste, qui a pour spécialité de donner la vie. Si vous avez un centre CHU ici qui a ce spécialiste qui donne la vie, tout le monde irait là-bas. On est d'accord, hein? Tout le monde irait, un spécialiste qui donne la vie, c'est où? Ah ben, j'irai là-bas. Non, ce spécialiste qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Et il est dans la parole de Dieu. Et il est ici, en tous ceux qui ont cru en lui. Et nous sommes partis de loin d'un esprit mort, à qui il a donné quoi? La vie. Ça a commencé par ça. D'abord par ça. Et pourtant, l'âme était toujours corrompue et le corps est toujours corrompu. Mais ça a commencé par redonner la vie à qui? À notre esprit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reprend vie aussi? Dans la sanctification. C'est pour le salut de notre âme. Qu'est-ce qui reprend vie? Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui revient à la vie par l'Esprit qui agit sur notre âme, par la parole de Dieu qui agit sur notre âme. Notre âme devient de mieux en mieux. Et ça devrait être ça. Mon âme, comment vas-tu? Mieux en mieux. Pourquoi? Ah, je n'ai plus ces douleurs qui me faisaient mal avant. Avant, j'étais toujours dans la colère, dans l'animosité. Avant, je ne détestais les gens. Avant, je me sentais seul. Avant, il y a toutes ces choses qui font du mal à notre âme. Mais en Jésus-Christ, nous avons quoi? La guérison de notre âme. Mais une guérison, ça veut dire que ça vient petit à petit. Donc, il y a toujours une amélioration. Et c'est... Le verset suivant, il nous dit quoi? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est notre victoire, nous avançons dans cette victoire. Et comment est-ce qu'il la donne? Suivant. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Ah, maintenant, avec le Seigneur, je commence à mâcher. Avant, j'avais du mal à avaler la parole de Dieu. Maintenant, je commence à mâcher, à déglutiner. Ça commence par ça, hein. C'est très simple. Là, quelqu'un qui se réveille d'un coma qui est là depuis longtemps, il réapprend le basique. Le basique, c'est apprendre à manger déjà. Et puis, il va dire quoi? Ah, maintenant, j'arrive à tenir debout. Ah, maintenant, j'arrive à marcher, mais j'ai besoin qu'on me soutienne encore un peu. Et puis, maintenant, j'arrive à quoi? À marcher seul. Et après, j'arrive à courir. Et après, j'arrive même à tenir les autres pour qu'ils puissent marcher. C'est ça, grandir avec le Seigneur. On commence par peu et grandit petit à petit. Et puis, au fur et à mesure, dans le temps, on peut dire ça va de mieux en mieux. J'espère que nous pouvons constater ça dans nos vies. Que nous pouvons constater que nous devenons comment? Fermes et inébranlables. Grandissant avec le Seigneur, toujours. Et il utilise le terme « ferme et inébranlable ». Ferme, ça veut dire apprendre à tenir droit de manière constante. Donc, il y a une notion de fidélité. Et inébranlable, ça a une notion ici de sans changer de direction, sans changer de mouvement. Quelqu'un qui va toujours dans le bon sens. Et il dit, soyez fermes, inébranlables, soyez constants et allez toujours dans le bon sens. Parce que les Corinthiens sont allés dans le mauvais sens. Et c'est un message pour nous de nous dire, attention, dans quel sens est-ce que l'on va? Si l'on va dans le mauvais sens, il dit non, soyez ferme et inébranlable. Et c'est quoi la manière? Eh bien, il faut veiller en travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Vous avez vu les gens qui font de la rééducation? Pour réussir à être plus ferme, pour tenir droit et aller dans la bonne direction, ils ont besoin de quoi? De rester toujours dans le lit? Ils font quoi? Ils sont obligés de se lever. Et ça fait mal. Ça fait mal de se lever quand on ne s'est pas levé pendant des années. Ça fait mal de se lever et quand notre corps n'était pas en mouvement pendant longtemps. Et pourtant, s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra jamais marcher. Et c'est pour ça qu'il parle de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et il y aura des difficultés. Mais ces difficultés montrent que le corps réagit. Et que nous sommes en train de progresser. Veillez à améliorer notre service pour le Seigneur. Voilà ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens. Mais leur service, ils le faisaient dans le désordre. Ils ne veillaient pas à prendre soin les uns des autres. Ils essayaient de s'améliorer par eux-mêmes, en cherchant les meilleurs dons, les meilleurs ceci, mais sans suivre l'ordre de Dieu, qui est de prendre soin les uns des autres, de s'occuper du corps. Alors, c'est une question pour nous. Lorsque l'on entend parler de nous ou de notre Église, qu'est-ce que l'on entend dire généralement? Est-ce qu'on entend dire « Ah, ça va de mieux en mieux ». Est-ce qu'on entend cela ou on entend dire « On entend généralement qu'il y a parmi eux de la... autre chose ». L'Église de Corinthe n'allait pas de mieux en mieux. Ils étaient ébranlés et inconstants. L'Église de Corinthe partait dans la mauvaise direction. Ils s'assemblaient pour devenir pire. Mais ma question, c'est nous, pourquoi est-ce que nous nous assemblons? Pourquoi? Peut-être certains se disent, oh, moi j'espère rien. C'est dommage, hein? Parce que nous nous assemblons pour devenir quoi? Meilleur. Et j'aime bien le mot assembler parce qu'on le retrouve de toute manière dans un seul mot que nous connaissons, qu'on dit je vais à où? À l'église. Vous savez, ça veut dire église quand même. Assemblée. Donc, dans le concept même de l'église, il y a la notion de s'assembler. C'est pour ça que quand les gens se mettent de côté, ils ne font pas ce que Dieu demande, qui est de vivre dans une quoi? Une église. Et l'église, elle est là pour que nous puissions tous, nous, s'améliorer dans notre sainteté. Devenir ferme et inébranlable. Pierre dira quoi? Approchons-nous ensemble pour former une maison spirituelle. Mais si vous restez chacun dans votre coin, ce n'est pas une maison. Vous serez juste des pierres. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous assembler. C'est bien, les Corinthiens le faisaient. Mais pour devenir quoi? Meilleur. Pour grandir dans la sainteté, pour amener la parole de Dieu et Christ au milieu, confesser nos péchés et laisser Seigneur travailler dans notre vie. Ça va de mieux en mieux. J'ai retrouvé ma vitalité, mes sens. Et ma vie se rapproche de plus en plus de celle que Dieu voudrait. C'est notre bonne nouvelle, c'est notre évangile, le salut de tout notre être, esprit, âme, corps. L'esprit rendu vivant, c'est ce qu'on appelle la résurrection spirituelle. Et ça a été fait au moyen de la justification. Vous êtes justifiés. Merci Seigneur. Il y a le salut de l'âme, ce qu'on appelle la guérison, la résurrection de notre conscience, au moyen de la sanctification. La conscience reprend vie. Elle était mauvaise et elle le vient. Elle est lavée pour devenir bonne. Mais il y a la finalité que nous attendons, c'est le salut du corps. Changement immédiat, la résurrection corporelle, ce qu'on appelle la glorification. C'est des termes techniques, hein, mais ça a un sens. La justification, la sanctification et la glorification. Voilà ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Un salut complet. Le salut en Jésus-Christ. Et j'espère que c'est ce que vous attendez tous aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui c'est encore possible. Vous ne savez pas quand la trompette va sonner. Vous ne savez pas quand le réveil va sonner. Mais le jour où ça arrivera, j'espère que tout le monde pourra dire ce que dit le verset 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun puisse dire cela dans sa vie et glorifier Dieu. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci parce que tu nous donnes victoire en Jésus-Christ. Tu nous donnes cette victoire. Nous qui étions des perdants, qui n'étions voués vers la mort, nous qui ne savons pas bien faire, qui ne savons rien faire qui te soit agréable, tu nous as donné tous les moyens. Merci pour cette délivrance, merci pour ce salut. Merci Seigneur parce que ce qui nous était désagréable avant est devenu vraiment ce qu'il y a de plus beau, nous approcher de toi. Merci parce que aujourd'hui nous vivons avec ta présence en nous. Mais nous savons que dans l'éternité, nous serons entièrement dans ta présence, dans ta volonté. Il n'y aura plus ce combat de péché. Merci pour cette délivrance. Il n'y aura plus de pouvoir de la mort, le péché. Il n'y aura plus cette loi. Mais il y aura juste l'amour. L'amour qui vient de toi. Sans lequel rien, rien n'est utile. Et je te prie vraiment que notre Église grandisse dans cet amour. Je te prie vraiment que cette Église, Seigneur, puisse être connue pour être un témoin de ton amour, de toi. Que nous soyons connus pour être des disciples de Jésus-Christ, pour suivre Christ, travaillant de mieux en mieux au ministère que tu nous donnes. Que nous soyons connus pour cela, Seigneur. Car Seigneur, c'est toi qui seras connu. C'est toi qui seras glorifié. C'est toi qui seras vu. Et Seigneur, nous te remercions déjà que nous puissions nous améliorer dans cette parole, Seigneur. Nous puissions grandir avec elle, que nous puissions être changés dans notre âme, d'être guéris, Seigneur, afin de toujours pouvoir compter sur toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains ne sont pas sûrs au retour du Seigneur de repartir avec lui. Peut-être que vous êtes de ceux qui se disent, je ne sais pas, peut-être que je partirai pas. Peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. Il y a une assurance. Si vous êtes en Christ, vous devez être assuré, rassuré, que le Seigneur accomplit ses promesses. Et si vous avez cru en Christ crucifié, si vous avez cru en Christ mort pour vos péchés et ressuscité au troisième jour, vous êtes sauvé. Mais il faut le proclamer, dit la Bible, confesser de sa bouche. Et si aujourd'hui vous voulez faire ce pas, levez juste la main. Et nous prierons pour vous. Mais il faut le confesser. Et hâter le retour de Christ pour le salut de notre vie. Seigneur, nous voulons d'abord nous en remettre en toi. Merci Seigneur parce que tu nous donnes, Seigneur, de grandir, de mûrir, de devenir ferme. Et Seigneur, c'est simplement parce que c'est toi qui accomplis cette œuvre en nous. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui sont là, qui puissent chacun grandir. Je te prie pour nos enfants. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux que nous rencontrons, que nous puissions être dans l'assurance de ton retour lorsque nous annonçons le salut autour de nous. Que nous puissions avoir cette assurance pour pouvoir parler librement. Merci en tout cas pour notre Église, merci pour la suite aussi Seigneur, et que tout cela puisse nous encourager dans notre vie actuelle. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je fais cette prière. Amen.